Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Ça tourne. Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, votre magazine consacré au cinéma sur Radio G. Tous les 15 jours, on vous fabrique une émission où on explore toutes les facettes du 7e art. Ce soir, je suis avec Véronique. Bonsoir Véro.
Bonsoir Anne-Lie.
Et ensemble, on vous propose une émission toute spéciale, entièrement consacrée à la 19e édition du festival Cinéma d'Afrique, qui se déroule en ce moment et jusqu'au 14 mai. Un festival précieux à Angers qui a vocation à montrer la diversité des productions réalisées sur le continent africain. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Nina Lorenz, la co-directrice du festival. Et en deuxième partie d'émission, c'est Alpha Sadougalo, réalisateur qui est aussi encadrant du groupe des jeunes programmateurs pour cette édition, qui sera avec nous. On est très heureuse de ce programme et on commence avec notre première invitée.
Bonjour Nina Lorenz. Vous êtes co-directrice du festival Cinéma d'Afrique avec Saïd Aragui et nous avons grand plaisir de vous accueillir dans le studio de Radio G aujourd'hui.
Bonjour.
Pour commencer, pourriez-vous nous dire quels sont les principes de ce très beau festival ?
Les principes du festival Cinéma d'Afrique, c'est de permettre au public angevin et public français même, de manière générale, de découvrir les cinémas d'Afrique. Donc cinéma avec un grand S. Faire découvrir la richesse de ces cinémas, la diversité de ces cinémas, avec une programmation qu'on espère aussi très diverse et variée. Donc on s'attelle depuis très longtemps à choisir des films qui pourront représenter au mieux cette diversité.
Mmh. Et justement, pour faire cette programmation, comment avez-vous accès aux films? Comment les découvrez-vous?
Alors, on a un groupe de bénévoles qui s'appelle le groupe Veille Film, qui depuis janvier 2022 s'occupe de recenser tous les films qui ont été produits ces deux dernières années, et en fait ils se concentrent sur des productions directement auprès des réalisateurs, auprès des producteurs, à travers des festivals qui ont lieu dans le monde entier et qui proposent des films d'Afrique. Donc c'est un peu un travail de fourmi qui est de rechercher les dernières productions. Donc on travaille sur internet, mais aussi on est très en lien avec les professionnels du cinéma africain. Donc c'est un travail de recensement comme ça, à la source en fait. Hein. Et puis le comité de sélection donc du festival se rend également dans les festivals en Afrique. Fin octobre, début novembre, on est allé au JCC, Journée cinématographique de Carthage, donc à Tunis, pour découvrir des films sur grand écran, pour rencontrer des producteurs, des réalisateurs, même des acteurs de films qui ont été réalisés en Afrique. Donc c'est un peu le moment aussi où on peaufine cette programmation. Habituellement, on va également au FESPACO, au Burkina Faso. Là, avec le contexte, on s'y est pas rendu, mais c'est prévu que tous les deux ans, justement, pour la programmation du festival, on s'y rende également pour faire notre choix.
D'accord. Et alors, votre programmation, elle est constituée de courts et de longs métrages.
Tout à fait.
Bon, comme ça fait un petit peu beaucoup, j'avais envie de m'intéresser un peu plus à vos longs métrages.
Mm-hmm.
Pouvez-vous nous en dire quelques mots?
Oui.
Combien il y en a? De quel pays ils viennent? Est-ce qu'il y a des histoires particulières qui se racontent?
Oui, oui. Alors, déjà, de manière générale, on a 15 films sur tout le festival, dont 6 longs métrages. On a un long métrage également qui est hors compétition, qui sera le film de clôture, qui est un film tunisien qui s'appelle Sous les figues. Et puis sinon, les films qui sont en compétition pour les longs métrages, je vais reprendre un petit peu la programmation que j'ai sous les yeux. On a
tournons les pages pour être à jour.
Alors, on a un film algérien, on a un film marocain, deux films marocains. un film somalien, un film tanzanien et un film de l'île Maurice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'île Maurice, on produit vraiment très peu de films. C'est d'ailleurs la première fois qu'il y a un long métrage ou même un film tout court qui est produit à l'île Maurice, qui sera présenté au Festival Cinéma d'Afrique. Et pour ce qui est de la Tanzanie, c'est pareil, hein, en termes d'historique des festivals Cinéma d'Afrique, ce sera seulement la deuxième fois qu'un film tanzanien sera présenté. Et avec ces films, en fait, il y a vraiment cette tendance de vouloir montrer des choses fortes, des thèmes forts qui s'inscrivent dans un contexte bien précis. Donc ça peut être un contexte politique, un contexte social, des choses qui vont frapper les spectateurs et qui vont vraiment faire découvrir presque un pays derrière ces productions. Donc voilà, par exemple, là, je pense à L'Esclave. C'est un film marocain qui est une fable, qui s'inspire un peu des contes marocains. Donc ça, c'est plutôt sur sa forme, mais finalement, il s'intéresse à quelque chose de très actuel, ce qui est là, en l'occurrence, les conditions de travail. Et puis notre rapport au travail, notre rapport au modernisme, voilà. Donc c'est des choses, c'est un peu ça, hein, qui se ressent dans la programmation du festival cette année, c'est que même si les films sont faits dans un autre temps, là oui, c'est aussi le cas pour le film tanzanien Les Révoltés, ça se passe dans les années 50 à Zanzibar, et pourtant on a des problématiques très actuelles qui sont d'autant plus en plus mondiales qui sont présentées dans ce film. Donc voilà, des films très forts qui font un peu bouger nos représentations aussi des choses. Donc ça, c'est aussi ce qu'on cherche, hein, dans la programmation, c'est de montrer des films forts qui ont un véritable impact sur le spectateur, peu importe sous quelle forme. Mais là, on a vraiment des films forts. La Femme du Fossoyeur, c'est pareil, c'est un film qui est de Somalie. Quand on pense à la Somalie, en général, on pense à un pays très pauvre. Mais justement, dans ce film-là, on voit effectivement qu'il y a de la pauvreté, mais on voit aussi qu'est-ce qu'on en fait. On voit tout un réseau de solidarité entre les gens qui permet de résoudre des choses absolument de manière vraiment superbe. Donc là, c'est voilà, c'est encore un exemple de film qui est fort et qui change un peu notre manière de voir les choses sur l'Afrique. Voilà.
À travers ces 5 exemples de longs métrages, je m'interroge sur la manière dont les cinéastes se sont formés à faire du cinéma. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ?
Bah, la plupart des réalisateurs qui sont présents au festival ont des parcours assez similaires. Ils se sont formés directement dans leur pays respectif ou sont venus se former en Europe, mais avec toujours cette volonté de revenir au pays pour garder. C'est juste parce que les écoles de cinéma sont très peu répandues en Afrique, et puis qu'ils ont vraiment cette volonté de se former pour faire des films, donc de manière professionnelle. Mais voilà, c'est l'Europe parce que peu d'établissements sur place. Mais sinon, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils seraient restés se former en Afrique, quoi. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des écoles identifiées pour se former au cinéma, ou c'est via les universités, ou c'est dans quel contexte ?
Là, pour le coup, je peux pas trop vous répondre. Je sais
D'accord.
pas trop.
c'est pas grave. Donc, en tout cas, c'est vrai que certains cinéastes passent par les écoles européennes pour se
former. C'est pas systématique, hein, mais c'est vrai que en général, c'est souvent ça.
Mm-hmm. Et sur le même principe, est-ce qu'il y a des cofinancements avec l'Europe ou la France, qui est un pays qui soutient les cinémas du monde ?
Oui, on a des certains films qui sont produits dans deux pays, soit là j'avais vu le nom m'échappe, mais il y a un film qui est produit en Tunisie et en France. Mm-hmm. Voilà, c'est un exemple typique de ce qui peut se produire, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas systématique là non plus. Tous les films ne sont pas produits par deux personnes.
Ouais, par deux pays, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour faire un film, du coup, en Afrique, les équipes techniques, enfin, il faut quand même quelques moyens humains. Mmh. Elles sont constituées sur place, enfin, ou pareil, il y a une diversité d'origine de techniciens qui peuvent venir aider.
C'est propre à chaque film, hein, pour le coup, mais non, la plupart du temps, c'est sur place. C'est à part quand une société de production cofinance le projet et du coup peut envoyer des équipes sur place également. Là, il peut y avoir d'autres origines, mais sinon c'est sur place hein, en général. Ouais.
Est-ce que vous avez avec travers tous les films que vous avez dû prévisionner ou déjà peut-être combien en avez-vous prévisionné, vous savez ou pas?
C'est un sacré nombre parce que comme je disais tout à l'heure, on se concentre sur les deux dernières années qui précèdent le festival. Donc ça fait beaucoup de films, peut-être je sais pas entre 100 et 200 films. Surtout que voilà, il y a des critères qui sont établis pour le festival, mais quand on regarde un film, on pense aussi à comment l'exploiter en dehors du festival. Donc c'est un peu difficile de quantifier la partie spéciale pour le festival.
D'accord. Ah oui, d'accord. Je vois. Et est-ce que vous pouvez du coup à travers toute cette diversité de films que vous avez prévisionné, il y a des tendances sur l'évolution du cinéma, des cinémas d'Afrique qui se distinguent depuis le confinement, enfin sur les moyens.
Ouais, c'est ça. C'est exactement post-confinement que les choses ont commencé un peu à bouger pour certains pays. Alors il y a des pays, hein, comme je pense au Nigeria, qui produit énormément de films, voilà. Mais avec le confinement, il y a tout ce qui touche au numérique qui a un peu explosé et qui a permis à des réalisateurs qui ont peu de moyens de pouvoir quand même faire des films. Et de pouvoir les proposer au festival et puis les diffuser après dans le monde. Et donc cette tendance, elle a été là en fait, juste après le confinement, des techniques, des choses voilà, plus accessibles, qui a ouvert en fait au plus grand nombre la production.
Et au-delà des festivals qui sont les terreaux pour révéler ces œuvres émergentes, comment les cinéastes et leurs boîtes de production font-elles pour que les films soient vus dans leur propre pays?
Ils se tournent vers les salles de cinéma. Alors parfois c'est les peu de salles de cinéma qui sont sur place. C'est vrai que c'est tout l'enjeu est là en fait justement, c'est de pouvoir faire profiter le plus possible les gens des gens sur place, mais c'est pas si évident que ça. Donc, en fait, encore une fois, c'est propre à chaque pays. Mmh. Voilà, c'est en tout cas ce qu'il faut se retenir des cinémas d'Afrique, c'est que à partir du moment où il y a cette volonté de faire un film et de le diffuser, il y aura toujours une solution pour que ce soit fait.
Ah oui.
C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Hein, c'est cette ténacité hein, et cette force et ce courage que la plupart des réalisateurs ont parce qu'il y a cette volonté de faire connaître. Donc, et ça, c'est peu importe les moyens qu'on a, c'est toujours réussi.
Et au-delà des festivals de cinéma d'Afrique, est-ce qu'il existe des plateformes qui mettent en valeur, des plateformes VOD
oui.
ou qui mettent particulièrement en valeur ces films?
Là, je pense à l'Institut français qui a une section Cinéma du Monde. Qui permet d'accéder à une catégorie spécifique à l'Afrique, qui diffuse donc à la demande des films d'Afrique. Il y a l'agence du court-métrage également qui a une section pareil cinéma du monde avec une catégorie Afrique.
D'accord.
Voilà, il y a quand même pas mal de et puis là de plus en plus sur Netflix, Amazon Prime, on voit des films d'Afrique apparaître dans les films donc proposés. Donc voilà,
c'est chouette, ils le méritent. Et donc, je vais revenir un petit peu au festival. Mm-hmm. Les films sont accompagnés par leurs réalisateurs et réalisatrices. Comment ça s'organise le séjour des réalisateurs à Angers?
Eh bien,
quel programme les attend en fait pour eux?
Ils sont invités. Il y a donc les invités sont arrivés la semaine dernière et donc ils ont un planning bien chargé parce qu'on essaye de faire en sorte qu'ils profitent de leur présence pour échanger avec le public. Donc c'est soit directement en salle après les projections, soit dans le hall du Grand Théâtre. Et puis on essaye aussi de faire en sorte qu'ils les rencontrent en dehors de ces temps prévus. Donc ils sont là pendant tout le festival, ils accompagnent aussi des groupes, le groupe des jurys jeunes, le groupe des jeunes programmateurs. Ils sont aussi présents pour répondre aux questions des personnes qui font partie du jury du public, s'ils souhaitent. C'est ça qui avait été un peu extrait du festival en ligne de 2021, c'est-à-dire que pour cette édition spéciale, les gens visionnaient chez eux des courts-métrages et choisissaient de les reprogrammer après, donc à la réouverture des cinémas. Et il y avait vraiment, lors des bilans, cette... cette chose qui était super de pouvoir échanger autour des films. Et donc, pour pouvoir faire un choix, donc c'était par petits groupes. Et ce volet-là de la sélection des films pour la réouverture des cinémas, ça avait été vraiment adoré par les participants, et on s'est dit qu'on allait le réutiliser pour le festival en vrai. Et donc, on propose aussi aux jurés du public de se balader dans le festival et de trouver directement les réalisateurs et d'avoir des temps comme ça où ils peuvent échanger entre eux et avec les réalisateurs, les professionnels du cinéma, pour peaufiner en fait leur choix.
C'est vrai que un des points forts du festival, c'est aussi toute cette convivialité qui existe. Vous pouvez nous en parler des autres moments autour des films.
Principalement, on est sur les échanges après les films, et puis des moments un peu en aparté. C'est le festival, c'est une rencontre de manière générale, donc les gens sont là, ils peuvent profiter de la présence des réalisateurs. C'est un peu toute la semaine quoi, qu'il y aura des temps pour les réalisateurs et pour le public.
Alors un autre volet du festival, c'est le temps que vous consacrez au jeune public.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe la partie jeune public du festival?
Alors à la différence des films qui sont en compétition, les films du jeune public ne sont pas exclusivement réalisés ces deux dernières années. Donc on ouvre un peu plus le choix, enfin la programmation, parce que il y a une réelle volonté d'adapter en fait au niveau des jeunes. Donc on a un film, trois courts-métrages pardon, qui sont pour les niveaux école, et trois courts-métrages pour les niveaux collège-lycée. Toutes les séances ont lieu le matin, il peut y avoir des groupes scolaires, mais c'est aussi ouvert au tout public. Voilà, donc des films toujours dans cette idée de vouloir montrer la diversité des films d'Afrique, des films qu'on veut accessibles aussi, puisqu'on a quand même beaucoup de films qui sont sous-titrés. Pour ça, quand il y a des films qui sont sous-titrés, comme c'est le cas pour cette programmation jeune public, on prépare les enseignants en fait pour qu'ils préparent leurs élèves tout simplement. Donc on fait une formation avec les enseignants pour qu'ils prennent connaissance en fait des courts-métrages avant le festival, et qu'ils puissent préparer leurs élèves à lire les sous-titres par exemple, à comprendre, à l'écoute de la langue aussi tout simplement, parce que quand c'est sous-titré, ça sous-entend que c'est une version originale et donc c'est parlé dans une autre langue. Voilà, c'est un temps de préparation justement pour accompagner au mieux ces élèves et qu'ils puissent être vraiment accueillis dans de bonnes conditions et découvrir dans de bonnes conditions les films.
Eh bien, merci beaucoup Nina Lorenz pour ce temps précieux que vous nous avez accordé en cette période intense de festival. Je rappelle donc à nos auditeurs que le festival Cinéma d'Afrique se déroule du 9 au 14 mai au Grand Théâtre et au cinéma Les 400 Coups à Angers. Vous trouverez toutes les informations sur ce festival sur internet, et l'adresse c'est cinemadafrique.asso.fr.
Merci à vous.
Thank you.
écoutez Caméra Subjective sur Radio G. À l'instant, c'était Nasra, un titre composé par André Mathias pour la bande originale du film La femme du fossoyeur, réalisé par Kadar Ahmed et que vous pouvez découvrir en ce moment grâce au festival Cinéma d'Afrique. La 19e édition, je vous le rappelle, se tient à Angers jusqu'au 14 mai. Et on continue d'en parler dans l'émission ce soir. Véronique, je te laisse présenter notre deuxième invité.
Bonsoir Alpha Sadougano, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez au Sénégal et vous êtes notamment réalisateur, mais aussi producteur audiovisuel et cinématographique. Et vous êtes présent actuellement à Angers pour le Festival Cinéma d'Afrique en tant qu'accompagnateur du groupe de jeunes programmateurs. Bonsoir.
Bonsoir.
Peut-être avant de parler, on avait très envie de vous accueillir pour élargir notre réflexion sur la place du cinéma au Sénégal et peut-être plus largement en Afrique. Mais avant, on avait aussi envie de savoir un petit peu comment se développe le projet avec le groupe de jeunes programmateurs. De quoi s'agit-il ?
Voilà, ben merci d'abord, hein, merci pour l'invitation. Et je dis à vos auditrices et auditeurs que je suis très heureux d'être à Angers, cette ville que j'aime bien. Donc, c'est une, je dirais même une innovation. Le groupe de jeunes programmateurs, en fait, la cible que Cinéma d'Afrique veut toucher, c'est les primo-arrivants. Donc, probablement qu'on pourrait avoir dans les centres d'asile, c'est des jeunes de 12 à 18 ans qu'on pourrait prendre pour les intéresser à la programmation cinématographique. Vous savez, le programmateur est hyper important pour les festivals. C'est eux, donc... que ce soit des hommes ou des femmes qui font le tour des festivals pour sélectionner des films qui pourraient passer dans un festival et même dans des salles de cinéma. Voilà, donc là les jeunes, c'est l'ambition c'est de les initier à ça. D'abord, de s'intéresser à la cinématographie parce que pour faire le choix d'un film, il faut voir les thématiques qui peuvent toucher votre cible, vos spectateurs ou téléspectateurs, en tout cas ceux qui vont dans les salles du lieu, par exemple ici à Angers. Quel type de film pourrait intéresser des angevines et des angevins? Donc ça, c'est hyper important. Donc là, il faut tout un travail d'abord d'immersion dans la cinématographie des pays dans lesquels, en tout cas, que vous avez choisi et pour expliquer, parce que les réalités, en fait, ne sont pas les mêmes. Si on prend la thématique de la mort, elle n'est pas la même, elle n'est pas perçue de la même manière en France qu'au Sénégal, au Niger, au Japon. Donc, il faut ramener un topo pour les faire comprendre, pour qu'ils puissent choisir des films qu'ils mettront dans des festivals et des salles de cinéma. C'est un peu ça, le défi. Maintenant, c'est pas facile, comme vous savez, parce que la plupart du temps, les inscriptions des jeunes, si c'est juste le groupe de jury jeunes, c'est en ligne, donc on a les réseaux sociaux, les jeunes sont très branchés, mais les primo-arrivants n'ont pas un niveau intellectuel, ou n'ont peut-être même pas accès à Internet. Donc là, c'est un peu le défi. C'est le grand défi, donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, c'est un défi et nous aimons ces défis-là. Voilà.
Et ces jeunes ou ce groupe qui va se constituer ou qui peut-être maintenant est déjà constitué, comment va-t-on pouvoir voir les films qu'ils ont choisis?
Là, ce sont des courts-métrages qui sont dans la programmation.
Oui.
Que on va voir ensemble. Et là, on va débattre. Et de là... naîtront en tout cas des choix qui seront débattus au sein du groupe pour retenir au moins un, deux films qui pourront être projetés au 400 coups par exemple.
D'accord.
Voilà, parce que c'est aussi ça l'objectif. Hein.
Donc leur choix de films qu'ils voient pendant le festival sera montré après le festival.
Voilà, après le festival. Mais un choix indépendamment, je n'ai aucune emprise. Moi je leur fais des topos, je leur montre les codes et c'est à eux de faire leur choix.
C'est voilà. Vraiment et ça, très c'est, intéressant.
Voilà, ça c'est vraiment indépendamment. Je n'ai aucune influence, je ne leur dirai pas ce film et ceci et cela. Et voilà, c'est eux qui feront leur choix. Moi, je ne ferai que là. On suivra les films ensemble pendant la programmation du festival. Et après, on aura des rencontres, comme on dit, hein, de petits ateliers sur lesquels on va discuter. Et à eux, à l'interne, moi, je ne ferai que qu'encadrer, en fait.
Cette initiative, ce projet m'amène à vous interroger sur comment se passe la programmation des films au festival et donc plus largement, comment peut-on voir des films au Sénégal, notamment dans les salles de cinéma, parce que on sait qu'en Europe et dans le monde entier, il y a une crise de l'exploitation des films dans les salles et nous nous demandons comment ça se passe au Sénégal.
Ah, très bonne question. La crise, elle est mondiale, hein. Et plus, nous sommes beaucoup plus affectés, hein, Comme vous savez, l'Afrique, tout est prioritaire. La plupart de nos gouvernants ont presque délaissé la culture pour d'autres secteurs. Est-ce bien ou pas? Bon, moi, étant acteur culturel aussi, je dirais non, parce que c'est la culture pour nous, depuis notre premier président Senghor, on dit que c'est au début du développement. Donc moi, j'y crois parce que je suis foncièrement culturel, je pourrais le dire. Je crois que c'est ces dernières années, nous, bon, moi, quand dans ma tendre enfance, dans les années 80, il y avait des salles de cinéma dans toutes les régions du Sénégal. Il y avait une société qui était chargée de la distribution et de l'exploitation des films. OK? Maintenant, dans ces dernières années, depuis les années, en fait, fin 80, début 90, il y a eu des ajustements structurels où les grands banquiers, les mondiaux, ceux qui donnent finance en Afrique, disent que ce n'est plus prioritaire. Les États ont presque abandonné les salles au profit de privés qui n'ont pas pu continuer le travail. Et donc, ce qui fait que beaucoup de salles ont été transformées en lieux de culte. Voilà. Mais là, franchement, il y a une politique, je prends l'exemple du Sénégal, cinématographique qui a commencé avec la mise en place d'un fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle qui s'appelle FOPICA. Il y a eu des salles qui commencent à revenir. Et il y a de gros groupes, notamment français, hein, si c'est pas de la publicité, j'allais les citer, qui commencent à ouvrir des multiplexes au Sénégal. Là, actuellement, à Dakar, je pourrais vous dire qu'on a une dizaine de salles, vraiment, mais sous forme de multiplexes, qui sont super bien. On n'a rien à envier à une salle de Paris ou d'Angers ici, parce que c'est le même groupe, en fait, qui a ouvert là-bas, où on peut voir des films, quels qu'ils soient, quel que soit le support, en 3D, en tout ce que vous voulez, et dans des conditions très professionnelles. Maintenant, ce n'est pas gagné pour l'Afrique, parce que la banlieue, la plupart du temps, c'est dans les centres urbains. La périphérie n'est pas concernée, donc elle ne voit pas ces films, à moins, parce que pour quitter la périphérie, pour venir au centre-ville, il faut penser à dépenser pour le taxi, l'heure du film, reprendre un taxi, tout le monde n'a pas ces moyens. Donc, il y a une réelle politique à encore développer pour que les salles soient accessibles partout dans nos pays africains. Et cela, je connais parce que j'ai fait au moins la dizaine des pays de la sous-région. Je connais le Mali, le Burkina. Ça concerne tous ces pays-là. Et là, d'abord, il faut produire, beaucoup produire pour qu'on puisse, en tout cas, exploiter et diffuser des films dans les salles.
Ça veut dire que les salles de cinéma, et notamment ce que je trouvais vraiment très chouette, c'était il y avait des espaces pour le cinéma en plein air. Tout cela n'existe plus?
Là, ce qui a remédié à l'absence des salles, c'était justement les projections en plein air.
Ah oui.
C'est ça. Mm-hmm. Il y a même des structures associatives qui s'étaient constituées en faisant des projections mobiles.
Ah oui.
Oui. Mm-hmm. Sur des vélos ou des motos où vous avez une mallette qu'on transporte pour aller diffuser des films dans les villages. Cela a pallié à l'absence des salles de cinéma, notamment au Sénégal. Donc là, il y en a de moins en moins, mais elles sont toujours là, ces structures associatives, là pour aider, ce que je vous disais tantôt, que la banlieue et la périphérie n'ont pas accès à ces grandes salles. Donc cela fait que même des festivals chez nous projettent en plein air. Vous voyez un festival qui projette directement dans un quartier, vous voyez vers le coucher du soleil un écran qu'on place tout de suite, c'est un générateur qu'on allume pour avoir l'électricité et boum, la nuit, c'est une salle de ciné.
Ouais.
Voilà, donc vous voyez des salles de ciné improvisées comme ça et très naturellement. Mm-hmm. Ou en plein village, vous voyez vraiment un écran sorti de nulle part pour des films, pour vous dire qu'il y a une soif d'image, ouais, d'Afrique. Voilà.
Et alors, justement, s'il y a une soif d'image, quels sont les films que les gens voient au Sénégal dans les salles de cinéma?
Ah.
Ou dans ces fameux cinémas itinérants?
Bon, écoutez, on a toujours la prédomination. Vous savez, ce monde-là, tel qu'il est fait, c'est pensé. C'est bien pensé. Toujours une domination occidentale, excusez-moi, mais c'est la vérité.
Ah, dommage.
Ce sont des films, la plupart du temps, américains, vous voyez, c'est ça. Par moment français, vous voyez. Mais là, la politique interne des États africains commence quand même à renverser la tendance. Je prends l'exemple, je vais faire peut-être une petite parenthèse, des séries télévisées. On n'avait que des novellas qui nous venaient du Brésil, d'autres. Maintenant, il y a des productions locales qui reprennent cette place. Et on voit aussi que les jeunes, que ce soit en moins ou court métrage, commencent à produire des films vraiment authentiques, africains, qui commencent à passer dans les salles. Maintenant, le combat ne sera pas gagné en une, voire deux années. C'est un combat vraiment de longue haleine. Et parce que ça demande des moins, vous savez, le cinéma, c'est beaucoup de moins. Un long métrage, c'est 2 millions, voire 3 millions d'euros. Donc vous imaginez ce budget en France CFA, combien ça coûte. Et ce qui fait que, bon, des jeunes, nous qui avons titillé, qui ont aimé le cinéma, ben, on se constituait, nous, en groupe. Moi, j'ai une caméra, mon ami a son micro, l'autre sait faire le script. C'est comme ça qu'on faisait, qu'on a fait nos petits films. Voilà, on n'a pas les moyens de faire de grands films, mais on n'abandonnait pas. On disait qu'on allait faire. D'ailleurs, la première fois, moi, de ma génération, qu'on allait à l'association des cinéastes sénégalais, ils nous disaient, vous êtes des vidéastes.
Ah oui.
On a dit, oui, d'accord, merci. Mm-hmm. Mais nous, on est tombés, nous sommes de la génération du numérique directement.
Oui.
On n'a pas connu la pellicule. Donc, mais là, maintenant, la tendance est autre. On les regarde dans les yeux. Nous allons dans des festivals, nous formons des jeunes occidentaux, nous travaillons avec des équipes occidentales au Sénégal. Donc, on dit que ça évolue, et positivement. Maintenant, toujours, il reste le manque de moyens pour la production de films, parce qu'on a toujours été dépendant de l'Occident. Mm-hmm. Ou même, le choix des thématiques de nos films a été dicté, entre guillemets. Oui. Parce que là, pour que quelqu'un vous sorte, donne de l'argent, des fois, il prend le scénario, non, changez ça, faites ça et ça, mais ça change. Parce que dès lors que vous êtes dans un pays comme le Sénégal, où vous pouvez au moins avoir 100 000 euros, que votre État vous dit d'accord, on ne peut pas financer tout, mais on vous donne peut-être 10% du budget, vous avez le courage de regarder quelqu'un d'autre pour lui dire, ah tiens, j'ai tant. Mais autant il y a 30, 40 ans, tout était financé à l'extérieur. Là, c'était difficile de dire, non, tiens, je ne peux pas ça. Mais là, maintenant, moi, je peux dire devant un producteur occidental, ah non, mon pays m'a donné tant. Donc, c'est pour montrer la culture de mon pays, le paysage, le décor de mon pays, c'est ça que je veux. Je ne change rien dans le scénario. Sinon, peut-être quelques motifs pour, comme c'est universel le cinéma, ce qui pourrait intéresser un occidental, sa façon de voir, mais je ne pourrais plus changer un scénario pour l'intérêt juste d'un producteur occidental qui m'impose ce qu'il veut.
Est-ce que vous pourriez peut-être, vous nous avez témoigné de votre projet en cours sur le thème des tirailleurs sénégalais. Est-ce que ça peut être un exemple justement de comment vous pouvez nous témoigner en fait de comment vous le financez, comment vous pouvez garder votre idée sans être détourné par la volonté des producteurs occidentaux par exemple?
Voilà, donc là c'est le projet sur les tirailleurs sénégalais, je crois qu'il est un peu important peut-être de situer, d'en parler.
Oui.
Ce sont des soldats qui sont venus de plusieurs pays africains, qui sont venus défendre la France pendant la guerre et à leur retour au Sénégal en 44, c'était en novembre-décembre, ils sont venus et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, c'est le 1er décembre 44, ils sont sortis, réclamaient leur dû parce qu'ils sont rentrés au pays pour qu'on les paye et ils ont été massacrés.
Waouh!
Ils ont été massacrés. Maintenant là, il y a toute une nébuleuse autour de ça. Voilà, je ne peux pas entrer dans les détails parce que voilà. Il y a toute une nébuleuse et là, l'Afrique, les petits-fils, les fils des tirailleurs veulent la vérité. C'est pas que jeter des pierres, non. Des relations humaines doivent être remises sur les rails pour que le futur soit mieux vu. C'est pas que se culpabiliser, se lamenter sur ce qui s'est passé sur le passé. Moi, je ne suis pas du genre à dire, bon, l'esclavage, pourquoi ça, France dégage. Non, c'était fait à cette époque. Je ne vais pas culpabiliser un Français du 21e siècle tout de suite d'être responsable de ce qui s'est passé il y a deux siècles. Non, mais c'est l'État, c'est une continuité. Que nos États, y compris français et la France, je parle de cette relation France-Afrique, qu'elle soit revue, mais à visage humain, pour mieux appréhender le futur. Parce que le monde va évoluer. Hein. L'Afrique, maintenant, elle est indépendante. Il y a d'autres qui nous font la course.
Ouais.
Les pays, la Russie, la Chine, ouais. L'Inde. Mais moi, je parle français, je ne parle pas russe. J'ai une éducation française. J'ai beaucoup plus d'affinité avec la France qu'avec les autres. J'ai voyagé, j'ai fait la Chine, j'ai fait le Brésil, par exemple. Mais je me sens, j'aurais préféré garder mes relations avec la France, mais dans une relation de sincérité.
Oui.
Voilà, pour que nous appréhendons le futur. Donc, Tiaré 44, c'est ça. Ce sont des... Bon, je n'irai pas assez. En tout cas, il y a beaucoup de non-dits et de cachets sur ça.
Est-ce que ça va être difficile de financer, du coup, ce sujet?
Non, mais c'est un documentaire. Moi, j'ai les équipements nécessaires pour faire moi-même. une production qui ne pourrait pas, parce qu'il y a des types de films qui ne seront jamais financés.
C'est de l'auto, vous allez être dans un cadre d'autoproduction.
D'autoproduction, voilà. D'accord. Il y a des films où c'est très compliqué, mais c'est pas pour jeter des pierres encore.
Oui, oui.
Le rôle de l'artiste, c'est de montrer, c'est de questionner. Pas forcément après même de trouver des solutions, mais questionner pour que les gens voient ce qui se passe. Cette histoire n'est ni enseignée en France, ni enseignée au Sénégal. Mmh. On ne connaît pas.
Oui.
Le massacre, pourquoi ça a été fait, quelle était l'ambition, pourquoi. Et là, maintenant, quand même, il y a des choses qui évoluent. Parce que moi, je suis venu en avance ici, c'est pour justement une conférence autour du massacre de Thiaroye 44 avec une association sénégalaise basée à Angers qui m'avait invité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et positivement, que ce soit du côté des autorités françaises, notamment au ministère de la Défense, jusqu'à l'Élysée, cette question, cette problématique est prise très au sérieux. Et je sais qu'il y a des réflexions très sérieuses qui se font. Et nous, en tant qu'artistes et cinéastes, moi, mon ambition, c'est de suivre ce projet vraiment sur un regard d'artiste, sans aucun parti pris, comme on le dit, voilà, montrer la réalité au Sénégal et en France.
Je vois que le temps tourne et le temps passe trop vite, malheureusement, parce que c'est très intéressant ce qui s'échange. Je sais que, du coup, s'il y a Cinéma d'Afrique à Angers, c'est parce qu'il y a ce souhait justement de défendre la diversité des cinémas en Afrique. Je suis vraiment très heureuse que la ville d'Angers puisse accueillir cette démarche. Nous vous remercions chaleureusement d'être venu à Radio G pour témoigner de votre expérience. Et puis surtout, on souhaite une très belle vie au Festival Cinéma d'Afrique qui se déroule encore jusqu'à dimanche.
Eh bien, merci. Merci beaucoup en tout cas. Très ravi d'être là.
Caméra subjective se termine. Un très grand merci à nos invités Nina Lorenz et Alpha Sadougano pour leur présence, d'avoir répondu à nos questions. On vous invite évidemment très vivement à aller découvrir le festival Cinéma d'Afrique. Il se termine dimanche. Vous retrouvez la programmation complète sur le site cinemadafrique.asso.fr. Cinéma est au pluriel. Il y a, vous le savez, la programmation, la sélection de courts-métrages, de longs-métrages, des choses pour le jeune public. Tout ça se passe au Grand Théâtre d'Angers, au cinéma des 400 coups. Allez-y et puis vous nous direz comment c'était. De notre côté, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez écouter les podcasts de toutes nos émissions passées sur le site de Radio G, à la page de l'émission, caméra subjective bien sûr. On vous souhaite, avant la prochaine émission, une très bonne soirée, une très bonne quinzaine et surtout d'excellents films.
www.radio-g.fr je te tiens.